est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Ce que les hommes ont en commun est plus essentiel que ce qui les différencie. Zvetan Todorov, L'Esprit des Lumières, et de citer Montesquieu, je suis nécessairement homme et je ne suis français que par hasard. Bonjour, ravi de vous retrouver pour la seconde partie de l'entretien que Zvetan Todorov m'a accordé pour Transistor. Dans la première partie, diffusée la semaine dernière, nous revenions sur le dernier livre du grand universitaire français d'origine bulgare, Insoumis, paru aux éditions Robert Laffont Versilio. Cette semaine, nous allons parler littérature, histoire, auteur moral en politique, bref, ce que va nous dire Zvetan Todorov est encore une fois absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Zvetan Todorov.
Bonjour.
Vous avez commencé votre carrière universitaire comme théoricien de la littérature, publiant des ouvrages qui font encore date, parmi lesquels, bien sûr, ce livre fondateur qui est votre introduction à la littérature fantastique en 1970. Autant dire que la littérature, vous connaissez bien. Or, en 2007, vous publiez La littérature en péril. Votre constat est désabusé. La critique, l'enseignement littéraire et un certain nombre d'écrivains auraient coupé la littérature du monde, forgé une littérature autonome, réduite à l'absurde, selon vos mots. Pour paraphraser Saint John Perse, le poète, Zvetan Todorov, il n'est plus sur la chaussée des hommes de son temps.
Certains le restent plus que d'autres. Il me semble que dans la littérature contemporaine, il y a des voix nombreuses. Et j'encourage par mes jugements une certaine littérature plus qu'une autre. Ce que je déplorais un peu dans ce tout petit livre était au départ la manière de l'enseigner, notamment au lycée, parce qu'il me semblait que au lieu d'enseigner la littérature, on enseignait les méthodes d'analyse de la littérature, c'est-à-dire d'une certaine manière la critique. Or, la littérature est beaucoup plus intéressante et importante que les critiques qui passent et la littérature reste. Je pense aussi que la littérature est ce qu'on pourrait dire la première science humaine. Que pendant des longs siècles, la connaissance de l'humain se trouve dans ces monuments qui nous viennent du passé, que nous appelons littérature, même si l'extension de la notion a varié avec le temps. Mais c'est bien de la littérature que nous trouvons aujourd'hui dans la tragédie grecque, ou dans les épopées, ou dans le conte populaire, peu importe, mais c'est toujours un savoir sur l'être humain que nous y trouvons. Et s'il n'y avait pas ce sentiment que la littérature parle de nous et d'aspects essentiels de notre existence, je pense qu'elle n'existerait plus, on aurait oublié ces ouvrages écrits 500 ou 1000 ou 2000 ans.
On le comprend en vous écoutant, et surtout, on le comprend quand on dépasse juste le titre de ce livre, paru en 2007, La littérature en péril. C'est un hymne d'amour à la littérature que vous avez alors écrit dans ce petit livre, comme vous dites. Elle aide à vivre, la littérature ?
Bien, pour les gens qui fréquentent la littérature, incontestablement. Mais je pense qu'elle peut le faire pour tous, parce que la littérature ouvre des voies qu'aucune autre forme de connaissance de l'humain n'ouvre, parce qu'elle nous introduit dans l'intériorité d'autrui d'emblée. C'est lui qui écrit, c'est lui qui est raconté aussi. Donc, elle nous fait découvrir la pluralité du monde humain, au moins. Elle nous fait découvrir beaucoup d'autres choses en dehors de cela. La passion, l'expérience, de toutes les expériences sont dans la littérature. Mais elle nous aide à vivre. Je prenais mes exemples au début par tirer d'un texte Spectre mes compagnons de Charlotte Delbault, qui raconte comment les personnages des livres et des pièces de théâtre singulièrement l'aidaient à vivre lorsqu'elle était au camp. Mais même bien en dehors de situations aussi tragiques, je pense que la littérature, sans devenir une consolation, nécessairement, est un partenaire, est un réservoir inépuisable de sagesse, de compréhension de l'humain.
Alors vous me faites la gentillesse de me recevoir à votre domicile et nous sommes installés, je le dis pour nos auditeurs, nous sommes installés dans votre bureau et il est tapissé de bibliothèques avec tout autour de nous une forêt de livres. Quels sont parmi tous ces livres, et j'imagine qu'il y en a encore bien d'autres chez vous, ceux qui vous ont, vous, aidé à vivre?
Dans l'ordre alphabétique ou... Non, c'est parce que je suis en train de trier ma bibliothèque.
D'accord.
Et de ne garder que l'essentiel.
Ah, bah ça tombe bien.
Oui.
Pour une émission qui s'appelle Absolument
même,
Essentiel.
Oui, mais il y a quand même beaucoup trop pour cela. Mais, par exemple, j'ai gardé plusieurs livres de... pas mal de livres de... celui qui m'a influencé, certainement, dans les débuts de mon travail ici, qui était Roland Barthes, qui a influencé beaucoup de gens. Il enseignait à l'école des hautes études, ensuite au collège. Mais je sais que le contact avec cette personne, avec son intelligence, tout ce qu'elle avait, m'a profondément marqué, m'a formé d'une certaine manière. Mais ensuite, je descends de bas à B. J'ai eu un rapport très fort aussi avec un autre spécialiste de littérature qui s'appelait Paul Benichoux. Paul Benichoux était de 10 ans l'aîné de Barthes, mais il a vécu plus longtemps que lui. Et c'était le grand historien de la littérature française du XVIIe au XIXe siècle, du romantisme notamment, du sacre de l'écrivain. Il m'a aussi énormément appris à travers ses livres, mais aussi, et j'insiste dans les deux cas, à travers sa personne. Parce que, comme je le dis aussi dans la littérature en péril, il n'y a pas une rupture entre ce dont parle la littérature et ce qui constitue notre existence. Mais ensuite, cela continue. Alors là, je vois il y a un philosophe qui se trouve être un ami, André Comte-Sponville. Je vois Benjamin Constant, qui a été important pour moi. J'ai écrit un petit livre sur Constant et j'ai eu une longue admiration pour ce qu'il était et ce qu'il écrivait. Et bref, je vais ennuyer vos auditeurs en énumérant les uns après les autres.
Les ennuyer certainement pas, mais je pense que rien qu'avec cette réponse qui pourrait durer bien plus longtemps, ils ont là tout d'un coup la bonne idée de tous ces livres qui nous entourent à l'heure où nous parlons.
Ils sont très différents, effectivement. Et puis ici, il n'y a pas les romans.
Voilà, parce que c'est une constatation que je faisais en vous écoutant. Tout à l'heure, vous disiez que les critiques s'en vont et la littérature reste, pour paraphraser une célèbre maxime romaine. Et pourtant, quand je vous demande dans votre bibliothèque ce qui est absolument essentiel, ce sont des critiques, et non des moindres, certes, mais surtout des critiques qui vous viennent à l'esprit. Alors,
c'est parce que elle se trouve dans cette pièce.
Voilà, c'est ça.
La pièce des romans est une autre pièce.
Et alors, si on entrait fictivement dans cette pièce des romans, et là, je vais vous poser une question très difficile, parce que je vais vous demander de n'en choisir qu'un. Quel serait le seul roman? C'est une abomination, ce que je vous demande, certes, mais le seul roman absolument essentiel.
Eh bien, je dirais que je ne devrais pas répondre ou essayer de répondre à cette question, parce que réduire le sommet de la littérature à un seul livre n'a aucun sens. Si je devais choisir un pour le citer comme exemple de littérature, je dirais peut-être L'Idiot de Dostoïevski. Parce que c'est un livre poignant, complexe, pas évident, passionnant, tout cela à la fois, et c'est en même temps une tentative de penser le monde, penser l'être humain, aujourd'hui comme naguère.
L'Idiot, j'espère que ce n'est pas moi qui vais vous poser une question peut-être simple, d'allure simple, mais qui est assez compliquée pour autant. Et pour reprendre le titre de l'émission, qu'est-ce qui est absolument essentiel en littérature, Tsvetan Todorov?
Qu'est-ce qui est absolument essentiel? Eh bien, c'est à la fois la liberté de l'écrivain et la puissance des mots, mais c'est aussi cette ouverture de la littérature envers tout ce qui est humain. Et toute limitation, toute exclusion a priori est regrettable, parce que la littérature peut aller partout et peut nous éclairer en tout.
C'est une très jolie définition. À partir des années 1980, Tsvetan Todorov, pour continuer à parler de vous, votre carrière, vous vous êtes consacré à l'histoire des idées, aux questions mémorielles, à la construction de l'altérité, dans des cadres aussi différents que la conquête du Mexique ou les camps de concentration totalitaires. Ces trois axes de recherche vous ont fait écrire des textes, là encore devenus classiques, le tout récent « L'Esprit des Lumières » en 2006, ou le plus ancien « La conquête de l'Amérique, la question de l'autre », paru en 1982. Je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil au passage à tous les agrégatifs d'histoire qui ont pour la troisième année de suite à leur programme, eh bien, la péninsule ibérique et le monde, 1470-1640. Alors si vous aviez un conseil d'historien des agrégatifs en histoire, ce serait lequel?
J'ai eu le malheur, ou plutôt la chance, de venir de l'étranger, et donc de ne pas passer par cet apprentissage-là. Mais cette époque, on peut la connaître à travers maintes ouvrages, évidemment. L'histoire des Indes de Las Casas est maintenant traduite en français.
Effectivement.
En trois volumes. C'est une source très riche. Je ne sais pas si suffisamment de personnes mettent le nez dedans et la lisent toujours.
Ce serait votre conseil?
Ça serait un bon départ.
Alors, théoricien de la littérature, historien des idées et observateur de ce monde, si l'on peut dire, en 2008, vous publiez « La peur des barbares, au-delà du choc des civilisations ». Vous partez de la thèse de Samuel Huntington, parue en 1996 à New York, et vous commencez par dire qu'une des premières erreurs de l'universitaire américain, c'est d'avoir mis au pluriel le mot « civilisation ».
J'insiste sur le fait que le mot « civilisation » change de sens selon qu'il est au singulier ou au pluriel, et que donc nous engage dans des directions différentes. je reproche, enfin reproche, je pense contre Huntington que quand deux civilisations se rencontrent, elles n'entrent pas en clash, elles sont plutôt en train de produire des petits, qui est une troisième civilisation qui, ou une mutation au sein de la première ou de la seconde, qui permet de passer à autre chose. Mais les cultures n'ont pas de problème de s'influencer mutuellement. L'histoire de l'humanité est faite de cela, beaucoup plus que d'une guerre d'extermination, comme il l'imagine. En revanche, l'histoire politique, elle, est bien plus cruelle.
Vous dites, dans le livre La peur des barbares, la vraie opposition, celle qui serait logique, en tous les cas, conceptuellement, c'est d'opposer la civilisation à la barbarie. Et d'ailleurs, la notion de barbare est au cœur du titre de votre livre paru en 2008. Et j'aimerais revenir avec vous sur cette notion de barbare, barbarie. Et pour revenir sur celle-ci, je vais parler de la Grèce, mais pas de la Grèce antique, qui pourtant voit naître ce terme, barbaros, mais d'un grec d'Alexandrie de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, le poète Constantin Cavafis. Un de ses poèmes, le plus célèbre, se nomme « En attendant les barbares ». Et il m'a fait penser à votre livre, pour votre livre m'a fait penser à ce poème. Et je vais le lire en traduction française pour nos auditeurs, si vous le permettez. Pourquoi nous être ainsi rassemblés sur la place ? Il paraît que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Et pourquoi le Sénat ne fait-il donc rien ? Qu'attendent les sénateurs pour édicter des lois ? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui ? Quelles lois pourraient bien faire les sénateurs ? Les barbares, quand ils seront là, dicteront les lois. Pourquoi notre empereur s'est-il si tôt levé et s'est-il installé aux portes de la ville, sur son trône en grande pompe et ceint de sa couronne ? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui et l'empereur attend leur chef pour le recevoir. Il a même préparé un parchemin à lui remettre, où il le gratifie de maints titres et appellations. Pourquoi nos deux consuls et les préteurs arborent-ils aujourd'hui les chamarrures de leurs toges pourpres ? Pourquoi ont-ils mis des bracelets tout incrustés d'améthystes et des bagues aux superbes émeraudes taillées ? Pourquoi prendre aujourd'hui leur canne de cérémonie aux magnifiques ciselures d'or et d'argent ? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui, et de pareilles choses éblouissent les barbares. Et pourquoi nos dignes rhéteurs ne viennent-ils pas, comme d'habitude, faire des commentaires, donner leur point de vue ? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui, et ils n'ont aucun goût pour les belles phrases et les discours. D'où vient, tout à coup, cette inquiétude et cette confusion ? Les visages, comme ils sont devenus graves ? Pourquoi les rues, les places, se vident-elles si vite ? Et tous rentrent-ils chez eux, l'air soucieux ? C'est que la nuit tombe, et que les barbares ne sont pas arrivés. Certains même, de retour des frontières, assurent qu'il n'y a plus de barbares. Et maintenant, qu'allons-nous devenir sans barbares ? Ces gens-là, en un sens, apportaient une solution. J'ai pensé à ce poème de Cavafis. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, Zvetan Todorov ? Vous le connaissiez ?
Donc je le connaissais, oui. Mais je l'ai écouté attentivement, je l'ai relu attentivement à cette occasion-là. Et je dirais que, bon, ce n'est pas tout à fait les mêmes barbares
certes.
Que nous évoquons de part et d'autre. Les barbares, en fait, pour moi, les barbares qui méritent d'être appelés barbares seraient désignés ainsi par un jugement moral, universel. C'est une attitude inhumaine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire refusant à autrui le droit à la pleine humanité. Et c'est un... Donc c'est un jugement absolu et pas relatif, et on ne peut attacher l'idée de barbarie à aucun peuple, ni même à aucun individu, mais seulement à des actes, seulement à des états transitoires. Je pourrais dire que le barbare n'est pas le sujet, mais le prédicat de la phrase. Il est toujours une caractéristique, mais non pas une identité.
Ce qui interdit la paix, la cohabitation tranquille des cultures aujourd'hui, c'est la peur, c'est le ressentiment, c'est l'intolérance, parce que c'est ça qu'il y avait derrière votre discours également, ne pas être intolérant.
Oui. La peur et le ressentiment sont des réactions excessives à quelque chose qui, au départ, peut être réel. Mais on est toujours incité par les politiciens démagogues, surtout, de voir un ennemi en celui-ci, en celui-là, et si possible, une incarnation du comportement barbare. Je pense que on devrait retourner sa langue trois fois dans sa bouche avant de le faire et s'assurer que il y a réellement un comportement qui correspond à cette barbarie dont nous déplorons le déploiement autour de nous.
Parce que c'est un autre danger que vous pointez du doigt cette fois-ci dans votre dernier livre, Insoumis, auquel nous avons consacré la première partie de cet entretien. C'est la désacralisation accrue de la fonction politique. Vous l'évoquiez à l'instant, c'est politique démagogue. Pourquoi c'est un danger, cette désacralisation de la fonction politique ?
Oui, je ne veux pas dire que... Je dis cela un peu en passant... Je ne veux pas dire qu'il faut s'incliner devant le politique comme si c'était la parole divine, mais que chez nous, tout le consensus, tout le mode de la vie commune repose finalement sur l'universalité de la loi, de l'État, de notre existence commune. Il n'y a pas d'autre transcendance qu'une transcendance purement humaine. Elle n'est pas d'une autre nature. À la différence des États du passé, nous ne fondons pas leur légitimité sur... une tradition, ou sur la parole divine, ou sur une révélation. Donc, ce qui incarne la loi, le pouvoir, aujourd'hui, ont une obligation supplémentaire, en dehors du fait de bien faire leur travail, c'est de ne pas le compromettre, de ne pas nous en donner une image... dégradé, parce que c'est la base qui assure la vérité de la parole donnée, la continuité du vivre ensemble.
Vous dites dans votre livre Insoumis qu'il y a une sorte d'exemplarité à observer. Les hommes et les femmes politiques contemporaines, ils font pas assez preuve d'exemplarité selon vous ?
Pas tout le temps, non.
Pas tout le temps. Dans votre dernier livre, vous évoquez les destins de Malcolm X, de Nelson Mandela, qui ont refusé de se soumettre à la discrimination raciale qui était la règle à l'époque, respectivement, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça vous inspire des propos d'une femme politique comme Nadine Morano qui parle de race blanche à la télévision, française ?
Vous savez, c'est la croyance qu'il y ait des races humaines n'est pas en elle-même un scandale. C'est une question de savoir s'il y a des subdivisions de l'espèce humaine qui permettent de, tout en appartenant à la même espèce, d'avoir des caractéristiques physiques différentes, pourquoi pas ? Je ne suis pas choqué par l'existence de recherche, par exemple, qui irait s'interroger de savoir s'il y a des caractéristiques communes à certaines populations. Il faut bien imaginer que lorsque ces populations ont vécu en isolement pendant des milliers d'années, il y aura certaines caractéristiques physiques qui se maintiendront et d'autres qui disparaîtront. Mais je pense que là, l'idée de la race blanche était employée au sens de identité culturelle. En fait, c'est cette coïncidence, ce recouvrement entre l'identité culturelle, l'identité spirituelle et une caractéristique physique aussi superficielle. Il faut dire que la couleur de la peau, qui n'est même pas quelque chose qui caractérise en profondeur, puisque cela dépend simplement du nombre d'heures d'exposition au soleil pendant quelques milliers d'années. Mais cela ne nous apprend rien sur les caractéristiques culturelles et spirituelles des individus.
Là encore, il faudrait donc tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche. Dernière question, Zvetan Todorov, que je pose à tous mes invités cette année. Elle a l'air simple. Qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie ?
Oh, dans la vie, c'est plus facile que dans la littérature, vous
c'est
m'avez demandé la première fois.
Ouais.
Dans la vie, qu'est-ce qui est absolument essentiel ? Oh, je dirais que là, je peux dire que c'est l'amour.
Vous pouvez le dire, tout à fait. Merci Zvetan Todorov, merci d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir reçu chez vous pour l'enregistrement de cet entretien en deux parties.
Merci à vous.
Je tiens à remercier également Caroline Babule, sans qui cet entretien en deux parties n'aurait pas eu lieu, Mathieu Dejoux pour son aide dans la préparation de ces deux émissions, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien avec une personnalité du monde de la culture. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.